courbons-nous dans le Seigneur. Père Céleste, on veut te louer ce matin parce que tu es digne de notre adoration. Ce matin, quel plaisir d'être ensemble alors qu'on est réunis comme Église pour te louer. Et au moment où on est en train de te chanter, qu'on te loue, qu'on a les yeux sur toi, qu'on est ensemble, qu'on entend les voix de ton peuple qui t'élève, Seigneur, c'est comme si on oubliait nos problèmes. C'est comme si on oubliait ce qui est autour de nous, nos soucis, nos inquiétudes, ce qui nous décourage souvent. On a les yeux sur toi et ensemble, en te louant, on a un avant-goût du ciel, de quand on va être avec toi. Cette joie, cette légèreté, ce plaisir, ces louanges, te voir et que tout pâlisse, Seigneur, lorsqu'on te regarde, ça nous fait du bien. Et on veut dire merci pour ces temps, à chaque semaine où on se réunit ensemble. Sois béni, toi qui es le centre de notre adoration, qui doit être toujours, chaque jour, le centre de notre vie pour vivre une vie pleinement satisfaite en toi. Et au Père Céleste, on te confie ces deux besoins, nos finances d'Église qu'on te donne. On veut te remercier avec action de grâce de ta générosité envers nous et de ton peuple qui veut être généreux à ton égard et te dire merci. Bénis ces offrandes, ceux qui le gèrent, l'ose qui sont donnés pour l'évangélisation, les missionnaires, les pasteurs, ce lieu des services, etc., Seigneur, pour te glorifier. Père Céleste, accorde-nous de relever les défis que tu mets devant nous. On te prie aussi pour la santé du pasteur Tony, ainsi que pour d'autres personnes qui, comme Tony, vivent une épreuve de santé. Il y a des inquiétudes, des préoccupations. Des fois, il faut ralentir. On trouve ça difficile. Des fois, ça s'attritionne avec d'autres problèmes autour de travail, de famille. Père Céleste, relève-nous dans l'épreuve physique. Garde nos yeux sur toi, en train de t'adorer malgré tout. Et que toute chose pâlisse à ta lumière, ô Père Céleste. Et on te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors ce matin, on est dans le shalom. Et si on était des Juifs qui se saluaient, et même entre non-Juifs qui se saluaient, on souhaite la paix à l'autre, on dirait « shalom, shalom ». C'est un bonjour juif pour souhaiter la paix. Pas n'importe quelle paix, on va étudier cette paix-là biblique de ce que c'est le shalom de Dieu. Mais avant de commencer, je veux juste vous rappeler où ce qu'on est présentement dans notre programme d'Église et qu'est-ce que c'est Libération 21. Alors, qu'est-ce que Libération 21? C'est un temps consacré. Certains d'entre vous le savez, je le répète. Certains ont vu par courriel, d'autres n'étaient pas là, vous l'avez pas entendu, peut-être vous visitez. Alors, je veux vous rappeler que c'est un 21 jours qu'on veut mettre à part pour le consacrer au Seigneur et faire des choix pendant ce 21 jours-là. Que vous commencez mercredi cette semaine, que vous commencez dimanche prochain, le 21 jours commence quand vous le décidez et tant que vous le mettez à part. Aujourd'hui, j'inaugure ce moment-là, on va avoir une séquence de 3 semaines, qui sont ces 3 semaines-là dans le 21 jours. Et on veut clore après ça avec une célébration. Fait qu'il y a comme à peu près un 5 jours, dans le fond, entre le début et la fin. Mais c'est au centre de tout ça que vous allez exprimer un choix d'un 21 jours que vous mettez devant l'Éternel selon la forme que vous voulez. OK? Alors, le jeûne, c'est pas nécessairement de jeûner 21 jours d'affilée. C'est vraiment des gens, dans des cas exceptionnels, qui peuvent faire ça. On n'a pas tous la santé, la possibilité, etc., de le faire. Mais trouver des moyens de jeûner. Et, justement, on a un document sur le jeûne qui est disponible, va être disponible cette semaine sur le site de l'Église. Certains l'ont peut-être vu. Je l'ai envoyé à quelques-uns. Mais c'est pour donner une idée du jeûne biblique. À quoi ça sert? Pourquoi le jeûne? Où ça se trouve dans les Écritures? Qu'est-ce que ça fait dans notre relation avec Dieu? Pourquoi c'est utilisé, etc.? Les principes bibliques, puis après ça aussi, qu'on a pratiqué aussi aujourd'hui, sans ça soit toujours nécessairement la nourriture, des choses qu'on peut enlever de notre vie. Ma fille, tantôt, elle dit, papa, me regardant avec un clin d'œil, elle dit, moi, je vais arrêter de lire, parce qu'elle, elle aime lire tout le temps. Elle lit, là, 4-5 heures par jour, elle aime lire. Elle dit, moi, je vais mettre de côté ma lecture de mes choses que je lis tout le temps. Elle disait ça en riant parce qu'elle voyait que ça serait dur en bébite de faire ça. Alors, vous avez peut-être des affaires aussi que c'est dur en bébite d'enlever de votre vie et que ça prend beaucoup de place dans votre vie. Peut-être ça empiète sur vos relations avec des chrétiens. Peut-être ça empiète sur des activités qui vous font du bien comme un groupe maison. Et nos groupes maison sont ouverts pendant les prochaines semaines à recevoir des invités pour vous inclure. Pendant ce temps-là, il y a à considérer aussi après ça, si vous voulez rester ou vous voulez arrêter, c'est libre à vous entièrement. Mais c'est un temps où on veut vraiment mettre cela de côté. Pourquoi? Mais pour s'approcher de lui, prier pour notre ville, etc. On veut approfondir notre relation de Dieu et aussi approfondir la recherche du Seigneur et de sa bien-être, son bien-être à l'intérieur de nous. On va définir davantage tout cela. Donc, les prédications qui s'en viennent sont justement relatifs à la paix intérieure, la relation harmonieuse et artisan de paix que différents pasteurs de l'Église vont apporter. Et le 13, on va recommencer dans nos suites de prédications habituelles, mais le 18. Vous allez le voir dans les prochaines diapos. Alors ça, c'est les groupes maison. C'est les sujets qu'on va toucher à partir de cette semaine ou la semaine d'après. Des fois, les groupes maison, on les tire d'une semaine ou deux. Ça devient 3, 4, des fois 5 semaines si l'étude, on l'a pas terminée. C'est pas grave. On n'est pas limité dans tout ça. C'est pas une forme. C'est pas un programme avant tout. C'est un temps. OK? C'est un temps qu'on veut consacrer au Seigneur. Pas par obligation, pas par programme, parce qu'on veut le faire librement pour lui. Alors, c'est une occasion d'apprendre à connaître aussi votre communauté, donc les groupes maisons qui sont ouverts. Vous pouvez aller en arrière, donner votre nom peut-être à Nathalie ou à Tony derrière, ou encore aussi à Michel. Claude Vincent n'est pas là, je l'ai pas vu. Pour les groupes maisons, ah oui, il est là justement. Si vous connaissez un groupe maison aussi autour de vous, vous pouvez le demander simplement, je peux-tu me joindre à vous? Alors, ces différents frères-là vont pouvoir vous orienter vers un groupe. Et on va terminer le 18. Alors là, je vous invite à l'écrire, OK? Je sais quand on annonce une soirée de louanges et prières, Personne va le dire parce que qui pourrait critiquer ou dire quelque chose sur la prière? Mais dans les faits, il y a pas beaucoup de monde. Parce que quand on invite à la louange et prière, c'est pas une soirée de spectacle, c'est pas une soirée populaire, c'est pas une soirée médiatique qui attire les gens à aller dans la prière et la louange de Dieu. Mais je peux vous dire quelque chose. Quand on consacre une soirée à la louange et la prière, que ça fait du bien à notre âme. Et que ça change notre regard sur les choses. Et on, c'est LP puis aussi Marco qui ont vu de bon œil de le faire le vendredi avant Pâques. Donc à la fin, donc dans 5 semaines, après avoir ces 21 jours que vous avez commencé mercredi, dimanche prochain qui finit, puis ça terminerait donc le 13 pour vous. On met à la fin de ce 5 semaines-là, à l'intérieur duquel vous faites votre 21 jours, une soirée de louanges. Et ce qu'on veut faire ce soir-là, c'est vraiment pendant tout le temps de la jeunesse. Les jeunes pourront venir aussi s'ils veulent. On va avoir un temps de louange ici dans l'assemblée de 7h à 9h où ce qu'on va louer Dieu, prier et aussi partager des bénédictions de notre temps de 21 jours. On veut que Dieu soit à l'honneur, on veut le célébrer, puis on veut souligner ce qu'il a fait et le faire verbalement, publiquement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est dans votre vie que Dieu, vous avez un endroit où vous luttez avec un péché, puis qui vous traîne, puis qui vous enchaîne. Puis que vous allez mettre devant le Seigneur pendant ces temps-là. Peut-être c'est pour une relation qui est brisée que vous cherchez de la restauration. Peu importe c'est quoi que vous cherchez, mettez-le devant le Seigneur et on veut mettre un soirée de rendez-vous de louanges et prières où ce que quelques membres d'équipe de louanges vont faire une seule et même groupe pour cette soirée-là pendant que nos jeunes sont à la jeunesse. C'est une invitation à toute l'Église d'être ici et j'aimerais qu'on puisse être là, pas pour me faire plaisir, pour vous faire du bien, nous faire du bien. Un temps de louange et prière ici, vendredi le 18, pour inaugurer aussi notre fin de semaine de célébration de Pâques, où on va avoir aussi une prédication pour cette occasion-là, la chorale aussi de l'arc-en-ciel, etc. Puis je dois envoyer à Jean-François cette semaine cette feuille-là sur le jeûne qui sera disponible sur le site de l'Église. C'est bon? Et je résume ça, j'ai déjà tout dit ça. Alors, je vous invite à vous joindre à nous. S'il vous plaît, vous êtes le bienvenu tous et chacun. Shalom, c'est le thème, le mot paix, le mot pour repos, le shalom de Dieu. C'est le thème qu'on veut commencer et aujourd'hui, bien, je vais un peu introduire toute cette notion-là du shalom de Dieu et il va être développé sous différents angles au cours des 3 prochaines semaines par les 3 pasteurs qui vont me suivre. On est d'une société, vous savez, qu'on recherche le rendement. On est tous soufflés. On est souvent en épuisement. Et il y a une quête de repos. Et juste de dire le mot repos, ça fait du bien entendre le mot repos, même si on n'est pas dans le repos. Il y a une quête de notre âme pour cela. On est essoufflé, sous le stress, souvent débordé, on accumule. Des fois, il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil. Beaucoup de gens, à mesure que j'avance dans le temps, je réalise que beaucoup de gens luttent avec une bonne nuit de sommeil. Ça affecte le moral, ça affecte les forces. Est-ce que vous avez besoin de repos ce matin? Moi, j'étais fatigué ce matin. Hier soir, j'étais allé passer 4h30 dans une piscine remplie de chlore qui faisait chaud à grand-mère pour une requalification pour reprendre mes cartes de sauveteur. Je ne vais pas recommencer à travailler comme sauveteur, mais ça a été mon métier de 90 jusqu'à 98 avant d'être pasteur à plein temps. Et je reprends mes cartes parce que je passe mon été au Cap Patmos et je vais épauler l'équipe qui est là-bas. Des fois, il y a l'absence de sauveteur la fin de semaine. Fait que pour les activités, ça peut être pratique. Fait que j'ai repris mes cartes dernièrement. Je dois faire une autre qualification pour reprendre mes qualifications de sauveteur plage. Et toute la soirée, on est dans la piscine in and out, des interventions, des cas de colonne, des toutes sortes d'affaires, nager, montrer des compétences physiques, etc. Je voulais m'assurer aussi qu'à l'aube de mes 50 ans, j'étais pas non plus gêné avec les jeunes qui allaient être là, parce qu'on était seulement deux, mon oncle ou ma tante, qui étaient au-dessus de la moyenne. Là. Le reste avait tout l'âge de mes enfants. On était 26. Et je suis ressorti, du coup, correct. Le matin, je me suis levé, là, j'ai senti dans mon corps que j'étais fatigué. Les 4h30 dans le chlore, là, ça me rentre dedans. Et là, les cas de colonne, sortir des gens de l'eau, de toutes sortes de manœuvres qu'on doit maîtriser. Là, je suis fatigué un matin. Mais quand je suis arrivé hier soir, ma femme aussi était fatiguée parce que elle a passé la journée avec 15 jeunes adultes à la maison, puis on passait la nuit à la maison, puis ils déjeunent à la maison ce matin. Puis on a une rencontre spéciale, c'est les rêves du Camp Patmos. Ma femme s'occupe des jeunes qui travaillent pendant l'été, les jeunes adultes, puis les jeunes de la jeunesse qui travaillent dans les squads. Elle les recevait pour un 24 heures à la maison pour passer un temps spécial ensemble, pour revenir sur l'été passé, sur l'été qui s'en vient. Fait que ce matin, ils ont une rencontre, ils sont tous à la maison. Et finalement, je pouvais pas me coucher en arrivant, je peux vous l'assurer. Alors, j'avais mes filles qui sont venues me voir, Émile, Émilie, différents jeunes, puis là, on jasait. Fait que je me suis couché tard avec tout ça. Et peut-être que vous vous sentez comme moi ce matin un peu fatigué, hein? On a toute une semaine différente, des semaines des fois plus stressantes ou moins que d'autres. Puis des fois, c'est pas une fatigue physique, c'est émotionnel. Épuisé de prendre soin de quelqu'un parce que vous êtes aidant naturel, hein? Épuisé de prendre soin de quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'accompagner parce qu'elle a vécu un divorce, puis là, vous l'accompagnez, cette personne-là, quelqu'un au travail qui est dans un deuil, et on peut vivre une épreuve, et c'est des fois plus émotionnel, hein, ou bien même spirituel, un épuisement spirituel, parce que vous réalisez que finalement, vous prenez beaucoup sur vos épaules, mais il n'y a pas de soutien spirituel dans votre vie, parce que finalement, dans les derniers mois ou dernières années, vous n'avez pas investi du temps à prendre soin de votre vie spirituelle. Et vous vous sentez vide et épuisé spirituellement. Et un n'importe quoi vous renverse, vous met à terre. Je ne sais pas où ce que vous êtes quand vous entendez ce matin le mot « shalom », le repos, la paix de Dieu. On veut ce matin explorer, comprendre qu'est-ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet-là de manière introductive pour nous préparer à ce qui va venir les prochaines semaines dans les prédications que Marco, Tony et Jocelyn, différents pasteurs d'église, vont apporter. Vous savez, prendre une journée de congé, c'est bien. C'est physique, on a de besoin et c'est une bonne chose. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, on finit, on travaille du lundi au vendredi, vous arrivez à leur dire ah, enfin, du repos. Et c'est bien l'aspect physique. Et même, vous savez, Jésus faisait cela. Hein, il a dit à ses disciples à un moment donné, on a entendu le pasteur Tony nous en parler, « Venez à l'écart avec moi. Vous avez besoin de vous retirer de la foule qui vous demande des choses, de nourrir tout le monde, les demandes des besoins spirituels, de prier pour les gens. Puis, venez à l'écart avec moi. » Il avait besoin d'un repos physique aussi, mais également spirituel. Et évidemment, si on ne prend pas soin de notre corps physique, bien éventuellement, il y a un épuisement qui va s'en suivre. Fait que Dieu a aussi un souci qu'on se repose physiquement. Mais ces intentions vont bien plus loin que simplement le but du repos du corps d'une journée de congé qu'on peut tous apprécier, de moins de stress, d'une petite sieste, de se lever plus tard. Amen. Hein? Se lever plus tard, pas de cadran. Hein? Il y a un élément psychologique. Hein? Si tu sais qu'il y a un cadran, on dirait que tu travailles automatiquement moins reposé que s'il n'y a pas de cadran, puis que tu travailles comme Dieu le veut, amen, sans cadran, naturellement, avec le soleil, après une bonne nuit de sommeil. Mais dans une semaine, parfois, on n'en a pas beaucoup de ces nuits-là. Mais Dieu veut plus que ça pour vous. Le sabbat de Jésus ne dure pas qu'une journée. La semaine. Ça ne dure pas non plus quelques mois ou une année sabbatique. Mais le repos et la paix que Dieu veut nous procurer, c'est une paix toute la vie. Toute la vie. Est-ce que c'est vraiment possible? Jésus a dit, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je vous donne pas comme le monde donne. Il y a cette paix que Dieu, par Jésus-Christ, nous offre. Le shalom est un mot hébreu qui signifie paix, et certains juifs vont se saluer de cette façon-là par le mot shalom. Mais ça signifie plus que la paix, c'est une façon de souhaiter la paix aux gens, mais aussi la sécurité, le bien-être, le bonheur. C'est de souhaiter la bénédiction sur quelqu'un, sur une personne, pour en arriver jusqu'au salut de Dieu, jusqu'à la délivrance de Dieu. Maintenant, c'est un mot tellement précieux que pour les Juifs, vous savez qu'ils ont beaucoup ajouté de règles. C'était compliqué gérer le mot « shalom ». Ils ont plein de règles différentes selon les groupes de Juifs aussi, le type d'intensité de leur religion. Et certaines communautés juives ont interdit d'utiliser le mot « shalom » lorsque tu allais aux toilettes. Tu peux pas dire « aux toilettes, shalom » à quelqu'un. Et là, je vous laisse deviner pourquoi. Hein? Différentes raisons. Évidemment, de un, c'est le nom de Dieu, le nom Shalom. Hein? C'est aussi un nom, le Dieu est appelé la paix dans l'Ancien Testament. Donc, certains prétendent que ce n'est pas approprié de prononcer le nom de Dieu quand on va aux toilettes ou dans une toilette publique. Mais cette règle cause des problèmes parce que là, il faut plus sortir d'autres règles aussi. Parce que là, il y en a qui ont le nom Shalom aussi, paix. Shalomon, ça vient de Shalom. Fait que là, si t'avais un ami qui allait aux toilettes, puis son nom, c'est Shalom. Hey, salut Shalom. Oh, c'est vrai, j'avais pas le droit de dire Shalom aux toilettes, parce que c'est le nom de Dieu. Fait que là, ça devient compliqué, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle ajouter des règles à la religion, même à vouloir bien faire. Et finalement, qu'est-ce qu'on se ramasse? Ça devient compliqué, et on n'arrive pas à toutes les tenir. Quand on ajoute des règles, c'est compliqué, même si on a des bonnes intentions. Maintenant, au cours de notre campagne de jeûne et prière, bien, on veut parler de la paix intérieure avec le pasteur Tony. On va parler de l'appliquer dans nos vies, dans les relations avec les gens et être un artisan de paix. Mais pour ce matin, on va mettre la toile de fond pour nous aider à comprendre le vrai sens de ce mot. Et on va le regarder sous trois angles ce matin. La paix sous trois angles pour commencer, et de commencer en soulignant que Dieu a toujours voulu qu'on entre dans son repos. Et je vous invite à aller dans Genèse, chapitre 2. On veut comprendre le repos de Dieu. Et quoi de mieux que de commencer dans le premier livre de la Bible, dans les premiers chapitres, pour avoir les indications de Dieu sur c'est quoi ce repos qu'il veut pour nous, qui a toujours été son désir. Et je vous lis chapitre 2, versets 1 à 3. C'est ainsi que fut terminé ou achevé le ciel et la terre. Parce qu'on vient de lire dans le chapitre 1, tel jour, un jour, deuxième jour, il fut un soir et une nuit, troisième jour, sixième jour, un soir et une nuit. Et là, boum, c'est ainsi que fut terminé ou achevé le ciel et la terre. Et toutes leurs armées. Souvent un terme utilisé pour qu'est-ce qui est dans le ciel, l'armée du ciel étant ceux qui le servent, les anges, etc. Le septième jour, et remarquez ici, c'est le septième, c'est pas un troisième jour demain, c'est le septième jour depuis le début du monde. Dieu mit un terme ou acheva son travail ou son ouvrage ou ce qu'il avait fait de création. Il se reposa, et là ici on a le mot sabbat, mais en verbe. Il a sabbaté. Et ça, il s'est arrêté. Il a arrêté de faire ce qu'il faisait. Il s'est reposé de toute son activité, de tout son ouvrage, le septième jour. Et Dieu a béni le septième jour et en fit un jour saint ou un jour consacré, un jour mis à part. Parce que ce jour-là, il se reposa ou il s'arrêta de son travail. Il cessa de faire de tout son ouvrage, son activité, de tout ce qu'il avait créé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Le chapitre 1 est un peu comme une première page de journal, où on résume ce qui s'en vient des premières pages, on donne sur la première page les articles principaux, puis on donne un résumé. Mais le chapitre 1, c'est un peu ça, c'est le résumé de la création en 6 jours. Et rendu au chapitre 2, il nous parle du deuxième jour, et là, il éclate. Il développe le sixième jour en rétrospective, en donnant plus d'informations au chapitre 2 de la Genèse, comme si on allait dans finalement la troisième page du journal, puis on avait l'article au complet de ce qui avait été résumé sa première page. Et là, il développe sur chapitre 2, le sixième jour, sur la création de ce jardin, de l'homme, et pourquoi l'homme a besoin d'une femme, et d'où vient cette idée de couple qui nous est développée au chapitre 2. Et on apprend à tout début de ce chapitre que Dieu a créé ce septième jour de repos. Maintenant, clarifions tout de suite. Je ne suis pas convaincu que Dieu était fatigué comme moi après six jours de travail, puis qu'il avait besoin de se reposer. Amen? Hein? Dieu n'est pas un homme. Et pourtant, Dieu a décidé de nous donner un modèle et par son comportement, et il célèbre dans ce septième jour tout ce travail qui a été fait. Il se repose, il regarde, c'est beau, c'est bien, et c'est à l'honneur de Dieu. Il y a un moment pour s'arrêter, puis regarder, puis apprécier tout ce que Dieu a fait, et de se reposer. Mais on s'entend ici que c'est pas parce que Dieu était la langue à terre comme moi et toi, hein, puis qu'il avait trop travaillé dans la semaine, il avait fait du overtime, puis il avait besoin d'un septième jour pour se reposer. OK? C'était pas ça, l'idée. Donc, le chapitre 1 nous parle de un repos, un septième jour, et que Dieu se repose de son travail. C'est la première chose qu'on voit dans ce chapitre-là. Et dans le chapitre 2 encore, ensuite, on voit plus tard au verset 15 ceci, vous pouvez lire avec moi, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive », ou littéralement, le mot « cultive » vient du fait du mot « pour qu'il serve ». Et plus tard, on va le voir, serve le sol, donc l'idée de la traduction de cultiver, et le garder, ce jardin. Donc, ce jardin-là, il devait le travailler, il devait le servir, et il devait le garder. Et donc, rapidement, on apprend que après ce repos-là que Dieu a donné, quand il crée l'homme, il lui donne des responsabilités, il lui donne un travail à faire, et c'est tout à fait normal sur cette terre, dès le début, même dans un monde parfait, qu'il y ait un travail physique. De prendre soin de ce jardin, prendre soin du sol, de le cultiver et de le garder, d'en prendre soin. Troisième élément aussi qu'on apprend un peu plus loin au verset 18, c'est que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui fit un aide, et j'aime mieux traduire le mot littéral en hébreu ici, il lui fit un secours semblable à lui, comme son vis-à-vis. Et donc, on apprend trois éléments ici. On apprend que la question du repos, chapitre 2, qui est important, que Dieu nous donne. On apprend que, malgré tout, on a des responsabilités. Il y a un travail qu'on a comme être humain, puis c'est normal. Et on apprend aussi qu'on est des êtres relationnels, et c'est important, ça. C'est pas bon qu'on soit tout seul, il nous met à deux dans ce jardin-là, parce que l'être humain est fait relationnel, comme la personne de Dieu l'est également. Et donc, il y a les relations. Le premier élément est le repos. La Bible parle de repos et explique pourquoi Dieu a créé le repos. Et non seulement il a créé le repos, mais il l'a aussi prescrit comme une ordonnance. Deuxièmement, il y a ses responsabilités qui sont confiées, chacun dans son domaine. Et c'est la raison pour laquelle aussi on voit les enfants à l'école pour les préparer éventuellement au travail, les équiper, les instruire, qu'il y a l'éducation, de la discipline, de la formation. Puis on met beaucoup d'efforts là-dedans sur la partie, là, hein, sur la partie travailler. Puis se préparer au travail, puis équiper nos enfants à travailler, puis leur apprendre aussi progressivement des responsabilités. Et aussi, la Bible nous dit que c'est une bonne chose. On dit dans Proverbes chapitre 12, verset 26, c'est un bien précieux ou une fortune, quelque chose de très important pour l'homme. C'est l'activité, ou c'est le travail, ou c'est la fierté d'être diligent dans un domaine de travail. Fait que c'est important pour nous. Et on travaille fort là-dessus. Le troisième élément, bien, c'est les relations. Et c'est là qu'on trouve la satisfaction. On dit que dans une église locale, même s'il y a des beaux programmes, même si le service est extraordinaire et qu'on trouve la musique est bonne, qu'on aime bien le prédicateur, etc., si dans l'église on ne trouve pas des relations satisfaisantes, on risque de partir éventuellement. Parce que 80% de ce qui amène quelqu'un à s'installer dans une église et vivre vraiment une satisfaction est lié à ses relations. S'il y a des gens dans l'église avec qui tu sens vraiment un aspect vis-à-vis, une authenticité qu'on peut partager, s'encourager. Même s'il y a des choses que tu n'aimes pas trop dans l'église, tu vas passer par-dessus ça parce que tu vis des relations satisfaisantes. Ça fait partie des choses qui fait pour nous vraiment un élément de satisfaction dans notre vie. Et c'est vraiment important. Et c'est pour ça que dans nos familles, des fois, il y a des choses qu'on passe par-dessus parce que les relations l'emportent dessus. Mais quand c'est brisé, eh bien, oui, effectivement, ça fait mal. C'est pour ça qu'on rencontre parfois des gens qui n'ont pas grand-chose sur le plan matériel, mais qui sont relations. En relation, leurs relations, excusez-moi, sont riches, joyeuses et épanouies. Parce que l'élément déterminant sont beaucoup plus les relations. Ils sont heureux malgré le fait qu'ils ont peu en termes de choses, d'affaires. Alors, on a donc le repos, le travail, les relations. Et là, ce qu'on peut voir dès le début de la création de l'être humain, Dieu se fait insistant sur l'importance du repos. Et Dieu précise le genre de repos que nous avons besoin. En soi, c'est ce qu'on va découvrir, évidemment, que c'est plus que le repos physique. Dieu a toujours voulu qu'on entre dans son repos, qu'on va définir davantage. Mais c'est quoi exactement le repos de Dieu? C'est l'autre angle qu'on veut regarder et qu'on va faire à l'instant, sur la raison pour laquelle Dieu a prescrit ce jour de repos maintenant. Et deux passages des Écritures sont notés ici et qui nous aident à comprendre ce jour de repos. Parce qu'il y a deux endroits où les 10 commandements nous sont donnés et où il y a une prescription de respecter dans les commandements le jour du repos. Et dans ces deux textes-là que vous pouvez prendre, on a deux explications sur le pourquoi qu'existe le repos de Dieu. C'est un jour de repos pour célébrer la création et célébrer le salut. Vous savez, on a deux fois les 10 commandements qui nous sont répétés. C'est pas juste parce qu'on a besoin de répétition. C'est aussi parce que dans Genèse chapitre 20, on donne les commandements dans le désert. Après que le peuple a été libéré de l'Égypte, et le Seigneur va donner après un an les prescriptions, le tabernacle, la tente où ce que Dieu va avoir sa présence, rencontrer les gens et les règles qui sont données dans Exode, Lévitique, Nombre. Et ça se fait au tout début des 40 ans dans le désert. Mais 39 ans plus tard, lorsqu'ils sont juste sur le bord d'entrer dans la terre promise, il y a une nouvelle génération et là arrive le Deutéronome, la deuxième loi. C'est ça que ça veut dire, Deutéronome. Deuxième loi. Pourquoi? C'est pas la deuxième loi en réalité. C'est qu'elle est répétée une deuxième fois pour la nouvelle génération qui va rentrer dans la terre promise. Elle a besoin d'être rappelée ce que Dieu a fait. Et beaucoup de Deutéronome, c'est de rappeler à la nouvelle génération qu'elle n'oublie pas d'où elle vient, puis ce qui s'est passé, puis son histoire, puis l'intervention de Dieu, d'où le pourquoi. On a souvent souviens-toi dans Deutéronome d'une manière déproportionnée au reste des Écritures. Et là, il va répéter les commandements, mais là, tout à coup, dans cette répétition-là, on apprend des nuances que Dieu va introduire un peu partout dans le Deutéronome, dans les règles, des ajouts pour compléter ce qui avait été donné à cette nouvelle génération avant qu'elle rentre dans le pays et lui donner des indications fraîches et claires sur la mise en pratique de la loi dans le pays que Dieu donne. Vous me suivez? Ça va jusqu'ici? OK. Et donc, dans le premier, on a des indications sur le sabbat et dans le deuxième également, mais il y a des éléments complémentaires. Alors, on va les lire. Maintenant, on veut se comprendre ici, avant le chapitre 20, on n'a pas parlé du mot sabbat. Entre le moment qu'on l'a parlé dans Genèse chapitre 2, le mot sabbat n'apparaît pas jusqu'à ici, OK, dans la loi. Mais il est implicite dans certaines actions. Vous allez vous rappeler, par exemple, que dans le chapitre 16, quand il y a eu la manne qui était donnée dans Exode chapitre 16, il disait, vous prendrez la manne chaque matin, c'était comme un gâteau qui tombait du ciel, qu'on cueillait. Et qu'est-ce qu'on faisait le sixième jour? On avait le droit d'en prendre au double. Il fallait pas que tu en prennes en double, parce que si tu en prenais en double, ce que tu avais gardé puis allait au lendemain matin, allait pourrir. Mais si tu le faisais le sixième jour, ce que Dieu demandait pour que tu te reposes le septième jour, Dieu pourvoyait au double. Et là, ça pourrissait pas le lendemain matin. C'est pas extraordinaire, ça? Et ça, c'est Dieu. Qui aurait pensé à faire une chose comme ça pour aider le peuple à pratiquer le jour du sabbat? Fait que donc, il est implicite, on ne mentionne pas le jour du sabbat, mais il est implicite, il est déjà utilisé et on va déjà le mentionner au chapitre 20. Excusez-moi, j'ai la gorge plus difficile ce matin avec tout ce chlore-là. C'est vrai, mon corps réagit au chlore à cette heure. Je dois prendre des pilules d'allergie parce que mon corps réagit depuis quelques années. Chapitre 20 d'Exode, versets 8 à 10, je vous lis. « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint, mis à part. Pendant 6 jours, tu travailleras, et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour, c'est un jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Et on voit au verset, au verset 11, là je cherche ce que je l'ai mis dans mes notes, et voilà. Il dit, en effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Il s'est reposé. Voilà pourquoi l'Éternel a béni ce jour de repos et en a fait un jour saint. La raison, c'est parce que ce jour-là souligne le travail de Dieu, sa création, et qu'il s'en s'est reposé. Et il dit, voilà pourquoi l'Éternel a béni ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il faut s'en rappeler. Vous allez le pratiquer parce que ça vous rappelle ce que Dieu a fait. Pas juste qu'il s'est reposé, mais que Dieu s'est reposé à la suite de sa création, qu'il est l'auteur de la création, et qu'on s'élève et qu'on bénit ce jour-là parce qu'il se repose. C'est pour ça qu'il est spécial. Et qu'on se repose aussi pour se rappeler de son repos et de son œuvre. Donc, on célèbre la création, on célèbre Dieu et son ouvrage fait dans ce texte-là. Maintenant, il y a une deuxième raison, et là, on va aller dans Deutéronome, et là, on va avoir le complément de la raison. Il répète les mêmes choses dans le Deutéronome quand il donne les 10 commandements, et on lit au chapitre 5, verset 12, « Respecte le jour du repos en faisant un jour saint, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. » Pendant six jours, tu travailleras, tu feras tout ce que tu dois faire, mais le septième jour est un jour de repos de l'Éternel, ton Dieu. Et là, il arrive à cette raison, verset 15. Regardez bien. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance. Voilà pourquoi ton Dieu t'a donné de respecter le jour du repos. Fait que là, il y a une deuxième raison qui est ajoutée. Tu te rappelles que Dieu a créé, qu'il s'est reposé. Donc, tu célèbres Dieu comme créateur en faisant ça. Tu penses au fait de ce qu'il a fait. Tu te rappelles Genèse chapitre 1, 2. Mais tu vas aussi te souvenir dans ce jour-là que Dieu t'a sorti quand tu étais pris dans un pays où ce que tu pouvais pas rien faire, où ce que tu es esclave depuis des années, que tu n'avais pas la force de te libérer, tu étais oppressé, sous contrôle, tu ne faisais pas ce que tu voulais, mais tu faisais ce que quelqu'un d'autre voulait. Et Dieu t'a sorti de là. Et tu vas te souvenir que Dieu est ton salut, c'est-à-dire celui qui te délivre de où ce que tu étais. C'est lui qui te sort de l'esclavage. Ça, c'est intéressant. Ces deux notions-là sont soulignées dans les 10 commandements, avec les deux, pour rappeler l'importance de ces 400 ans, de où ce que j'étais avant, et de ce que Dieu a fait. Et remarquez bien, je vais vous lire ici un texte, c'est dans Exode chapitre 3. Faites juste l'écouter, quand il parle à Moïse, et qui dit ce que Dieu fait. Il dit, « J'ai entendu leurs cris, j'ai vu leur détresse, je suis descendu, je les ai délivrés de la main des Égyptiens, je les amènerai dans le pays où coule le lait et le miel. Je. » Il n'y a rien ici qui est du peuple. Virons l'autre bord maintenant. Et appliquons-le à nous. C'est moi, l'Éternel, qui ai entendu ton cri quand ça n'allait pas bien dans ta vie. Puis tu étais désespéré. C'est moi, l'Éternel, qui a vu la misère dans laquelle tu étais, tes détresses, ce qui te mettait à terre, tes grosses épreuves que tu as vécues. C'est moi qui ai descendu te rejoindre, pas toi qui es venu vers moi. C'est moi qui ai descendu te rejoindre dans tes problèmes humains. Et c'est moi qui t'ai sorti de tes problèmes. Et c'est moi qui va t'amener à bon port jusqu'au ciel. Amen. Si eux en avaient besoin, combien nous en 2025 on a besoin? Amen. D'un jour où je me rappelle que Dieu est le créateur, que je me rappelle Genèse 1, 2, 3, d'où je viens, puis de célébrer celui qui est créateur, à qui je dois la vie, et de célébrer qu'il est venu me chercher là où j'étais perdu, qu'il n'y avait rien à faire avec moi, que les gens avaient garoché, abandonné sur moi, je ne valais pas la peine, et que lui est venu vers moi, m'a sorti de ma détresse, et a fait de moi quelqu'un, et c'est lui qui garantit aussi, de maintenant jusqu'à bon port, l'arrivée. C'est à ça que sert le jour du repos. J'ai besoin d'un jour qui se consacre à me rappeler mon Créateur et à me rappeler que ce Créateur-là est venu avec nous sur terre, dans notre bourbier. Il nous a sortis de là et a fait de nous quelqu'un en lui. Et que c'est lui qui s'est chargé de tout, et ça jusqu'à la fin. On a besoin d'un jour qui nous rappelle ça pour nous remettre les deux yeux dans la bonne direction, parce qu'on est facile à défocusser sur tout ce qu'il y a autour de nous, qui est décourageant, qui nous occupe, qui nous crée de l'anxiété, qui fait que tu es dans ta journée de congé, mais tu penses à ce que tu as à faire demain. Hein? Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive continuellement. On a la misère à revenir. Il dit, voir que tu te souviennes de moi, de qui je suis, puis ce que j'ai fait pour toi, pour garder le focus. Parce que ça t'amène du repos dans ta vie. Pas juste une sainte sieste le dimanche après-midi, puis Dieu sait que ça fait du bien, une sainte sieste le dimanche après-midi. Amen. Parce que c'est bon tous les jours de la semaine, une sieste, quand tu peux. Mais quand tu peux l'avoir le dimanche, elle est sainte en plus. Parce que c'est un jour saint, de repos. Et c'est le jour qu'on se rappelle ce que Christ a fait. Donc, la création dépend de moi, dit le Seigneur, et ton salut dépend de moi, ô Éternel. Donc, ces deux événements sont vraiment importants pour souligner et apporter dans notre vie toute cette question-là d'apprécier son œuvre, sa force, sa suffisance dans notre quotidien. C'est important pour notre santé. Maintenant qu'on sait que ce repos, c'est important pour notre santé et notre bien-être, plusieurs études montrent aussi que le manque de sommeil est une cause de certaines maladies. Fait que oui, c'est important aussi de ce repos physique. Puis on n'est pas en train de dire pour laisser le repos physique puis juste s'occuper du spirituel. C'est tout en sens, les amis. On n'a pas besoin de domper un sur le dos de l'autre, là. C'est le Seigneur qui donne la sagesse pour bien prendre soin de notre santé. Néanmoins, c'est intéressant de voir que ces passages, que lorsqu'il est question de jours de repos, on ne parle pas avantage de santé, mais on parle ici de prendre soin de notre corps spirituel, d'une santé spirituelle. On va plutôt mentionner le jour du repos comme une référence de l'œuvre achevée de Dieu. Il s'agit donc de repos dans la force et la suffisance de Dieu. Alors, Dieu a donné depuis toujours ce désir qu'on ait un repos. Depuis toujours, il le désire pour nous. Deuxièmement, il veut qu'on ait un temps pour souligner et célébrer dans le repos sa création et son salut. Troisièmement, et finalement, un autre angle, c'est que toute la gloire et la beauté du sabbat se sont révélées dans l'œuvre achevée de Jésus. J'aurais bien beau dire tout ce que je viens de dire, si je n'atterris pas à ce troisième point-là, j'ai prêché en vain. J'ai prêché en vain. Il y a une façon, vous savez, où ce qu'on lit la Bible, où ce qu'on prend le temps de considérer que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un progrès dans ce que Dieu nous montre sur lui. Tout au long, on est toujours en train d'apprendre de plus en plus le plan de Dieu. On progresse dans l'histoire de ce qu'on appelle la révélation du salut de Dieu. Il nous donne un peu plus d'informations et on est privilégié d'avoir toute la parole de Dieu écrite alors que certains l'avaient juste l'Ancien Testament. Certains étaient à l'époque de l'Église, n'avaient pas toutes les lettres qu'on a au tout début de l'Église. À la fin de l'Église, il y avait toutes ces lettres-là. Nous, on a tout ça. Quelle responsabilité, quel privilège en même temps d'avoir cette progression de révélation qu'on peut lire dans notre langue. Certains doivent apprendre une autre langue pour la lire dans leur langue au début avant que ça soit traduit. Quel privilège! Et en lisant, on a besoin d'être conscient qu'il existe un fil conducteur à travers la parole de Dieu. C'est l'histoire du plan de Dieu qui se dévoile. Il révèle progressivement en lisant la Bible de l'Ancien Testament vers le Nouveau, ses plans. On apprend un peu plus. OK, c'est ça qu'il voulait dire là. Ça se dévoile tranquillement. Et c'est pour ça aussi que Paul va dire ceci. Écoutez bien. Colossiens, chapitre 2, versets 16 et 17. Vous pouvez le tourner ou juste écouter. Il dit ceci. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête » ou d'un nouveau mois, ou du sabbat. Il dit là dans l'Église, en parlant à l'Église de Colosse, là, on l'a lu l'Ancien Testament, certains viennent du judaïsme dans le passé, se convertis à Jésus-Christ. Là, ici, dans l'Église, nous, on n'est plus comme ça, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Là on n'est plus en train de juger là, qui fait ça, moi, j'aimerais ça garder ça, ah moi, ça, moi j'aime pas ça, je pense que c'est pas nécessaire. Puis, il dit, là, arrêtez de vous juger les uns les autres sur qui pratique quoi face à cette liberté qu'on a. OK, ouais, mais pourquoi? Bonne question. Pourquoi? Voici la réponse, il dit. Regardez-moi. Tout cela, donc toutes ces fêtes, ces jours spéciaux, toutes ces journées différentes, le manger, le boire, les choses à mettre en pratique pour la pureté, tout cela n'était que l'ombre de choses à venir, mais la réalité est en Christ. Fait que dit toutes ces choses-là, ils vont trouver leur sens dans Jésus. C'était juste un ombrage pour nous dire, il y a quelque chose qui s'en vient, qui va éclairer le sens de tout ça. Si on a juste ça, ben c'est une autre religion. Mais quand Jésus arrive et accomplit tout ça, là, on comprend qu'il est possible d'avoir une relation intime, personnelle et libérateur avec le Créateur. Ce qui était difficile peut-être de comprendre auparavant. Et que pourtant, par la foi, il était possible d'avoir. Il dit tout ça, c'est l'ombrage. Et c'est Jésus qui l'accomplit. Et là, tout à coup, quand on dit ça, bien, il y a des mots, il y a des, dans les Écritures qui tout à coup nous sortent. Mais juste donner quelques exemples, OK? Par exemple, le temple dans l'Ancien Testament, ça représentait la présence de Dieu. Le temple était physique, matériel, mais le temple dans l'Ancien Testament était juste temporaire. Il durait un temps. Le sacrifice de Jésus sur la croix transforme la signification du temple et le temple est maintenant spirituel. Il n'est plus limité à un endroit temporel, à un lieu seulement où il faut aller. Le Nouveau Testament nous enseigne que l'Église est maintenant le nouveau temple de Dieu. C'est l'ensemble des chrétiens qui sont maintenant le temple. Ceci n'est pas le temple. Mais vous et moi qui croyons en Jésus, nous sommes le temple de Dieu. Il demeure dans ses enfants, dans son Église. Et Jésus-Christ permet cela par la régénération et le salut en Jésus-Christ. Et tout coup, il n'y a pas de temple physique. C'était pour un temps, vous comprenez? C'était l'ombre de quelque chose qui allait s'accomplir en Jésus. Et c'est vrai aussi dans toutes les lois de l'Ancien Testament, les sacrifices, la circoncision du peuple dans l'Ancien Testament. Paul explique que la vraie circoncision, ben c'est celle du cœur, c'est pas d'enlever juste le bout. Ça change pas le comportement puis la personne, mais il dit, il faudra enlever aussi le bout sur notre cœur. Hein? On va utiliser un image, on va l'utiliser comme veau. Il dit, avoir un cœur circoncis, là tu parles. Ça, c'est une régénération en Jésus-Christ. Ça veut dire une conversion. Le bout de l'Ancien Testament qui était coupé, c'était préalable à quelque chose que Dieu anticipait de bien mieux pour le peuple. C'est que ça soit appliqué spirituellement à travers Jésus-Christ. Comprenez? On pense à la Pâque, par exemple. Hein? Où ce que pour la Pâque juive, on se rappelait que Dieu a passé, quand il était à l'Égypte, il a passé par-dessus le peuple. Hein? L'ange de la mort n'est pas allé chez eux parce qu'ils ont mis du sang sur leurs linteaux. Et par ce sang sur les linteaux, l'ange de la mort est passé par-dessus Israël, et a seulement frappé ceux qui n'avaient pas mis du sang sur les linteaux. Vous me suivez? On célèbre, en anglais, le Passover, le fait que passer par-dessus, la Pâque. Mais avec Jésus, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lorsqu'on célèbre la Pâque, qu'est-ce qu'on célèbre? C'est que c'est Jésus-Christ qui est passé par-dessus nos péchés. C'est lui le sacrifice de la Pâque qui efface nos péchés, qui accomplit, qui amène la nouvelle alliance. Et tout à coup, on n'est plus en train de célébrer ce que les Juifs célèbrent, mais on les célèbre l'application de la Pâque qui est Jésus qui le réalise. Parce que toutes ces choses, ainsi que le sabbat, trouvent leur accomplissement, leur achèvement, leur aspect complet en Jésus. Et là, vous allez comprendre maintenant. Écoutez bien ce que Jésus dit. Là, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi, prendre les pages puis les mettre à la poubelle. Ben non, je suis pas venu faire ça. Scrapez pas votre Ancien Testament. Jésus a dit quoi? Ou même les prophètes, je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir, la faire parfaitement. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Jésus a parfaitement accompli la loi, si bien qu'il n'y avait pas le droit, qu'il avait acquis le droit d'offrir lui-même en sacrifice pour les péchés et procurer le pardon de nos péchés, la délivrance pour nous, parce que lui l'accomplit. Le Messie devait venir accomplir cela et donner tout le vrai sens. Rappelez-vous que Jésus a dit à la croix quoi? Tout est accompli. J'ai complété la loi. Puis ce qu'il fallait pour permettre qu'un sacrifice rédempteur qui rachète donc les gens, et qui libère les gens de leurs péchés, pas juste d'entretiennent ça dans une relation avec Dieu, mais les libère complètement, tout est accompli. Regardez bien maintenant. Je vous explique c'est quoi le mot « shalom ». OK? Le mot « shalom » en hébreu signifie « paix ». Il trouve son origine dans... En hébreu, tous les mots qui sont des noms féminins, masculins, ils ont une racine qu'on appelle « verbale ». À la base de ce mot-là, il y a une racine. Et nous, dans beaucoup de nos mots aussi, on est des racines. Hein? Il y a un verbe de ce mot-là souvent. Et la racine du mot shalom, ben, shalom, shalam, veut dire justement achèvement, compléter, être complet, être réalisé selon les différents temps de verbes, si on peut le mettre comme ça, de l'Ancien Testament. Mener à bonne fin. Le shalom de Dieu, c'est que Dieu a amené à bonne fin, a complété ce qu'il fallait. C'est le shalom de Dieu. Et c'est Jésus qui essayait de transmettre comme message aux Juifs continuellement dans sa vie, à différentes occasions. Quand il brisait la loi, il dit, vous comprenez pas. Et écoutez juste ces paroles-là de Jésus dans Jean 9, verset 16, il dit, là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu. Il ne respecte pas le sabbat. Il peut pas être le Messie. Il respecte pas le sabbat. Il était tellement attaché à ça qu'il ne comprenait pas les ombrages et d'autres prophéties dans l'Ancien Testament sur ce qu'il disait sur le Messie qui allait venir. Maintenant, les chefs religieux de l'époque avaient concocté, vous savez, à cette époque-là, des centaines de lois liées au sabbat. En fait, on dit qu'il y avait 1500 règles qui avaient été ajoutées à travers les années au sabbat. Fait que c'était devenu assez compliqué, merci. On a la misère à se rappeler de 3-4 règles, 3-4 consignes. Quand tu es rendu à 1500, tu es sûr que tu vas le manquer. Il y avait une trentaine de catégories aussi pour arranger tout ça, mais c'est M. Fruchtenbaum qui nous donne ses chiffres sur l'organisation de tout ça. Et donc, pour les gens, pratiquer le sabbat, la loi du sabbat, c'était devenu lourd, parce que là, c'était plus juste le repos. On avait tellement ajouté de règles à la règle de base, et c'est ce que Jésus fait. Il ne respecte pas les règles ajoutées. Il respecte la loi, mais eux avaient ajouté à la loi. Et un peu comme le catholicisme, vous savez, quand on retourne au catholicisme, puis qui n'était pas encore formellement le catholicisme des années 300, 400, 500, qu'est-ce qui est arrivé entre ce temps-là et maintenant? Il s'est ajouté, l'Église organisée, il s'est ajouté des traditions, des règles, des choses à faire. À la base, la foi christianiste était bonne, mais qu'est-ce que les humains font dans la religion? Ils tentent de contrôler, standardiser. Ah, mais tu peux pas faire ça. Ben oui, c'est pas écrit. OK, on va l'ajouter que tu n'étais pas supposé de faire ça. Parce que c'est ça, c'est sûr, c'est travailler. Ben moi, je trouve pas que c'est travailler, là, préparer mon déjeuner. Non, t'es pas supposé de faire ça. OK, on va le mettre pour protéger les gens parce qu'il manque de discernement, les gens. Il faut pas laisser le petit peuple décider. Il faut leur dire quoi faire. Alors, les bons pensants, nous, on va ajouter des règles pour dire au petit peuple qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou pas. Ils n'auront pas besoin de réfléchir comme ça. Et on va les protéger. Mais c'est ça, la religion, Et c'est ce qui est arrivé chez les Juifs. C'est ce qui est arrivé dans le catholicisme avec le temps, où ce que tranquillement, ça devient difficile de voir et d'entendre le salut, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'était passé parmi eux. Et donc, ça devenait lourd, la question du sabbat. Ce n'est pas une question le fun, pratiquer le sabbat. Et à l'époque de Jésus, les gens trouvaient ça lourd, c'était décourageant. Et tu sais, imaginez ici l'ironie. Le sabbat avait pour but de célébrer le salut des Juifs et leur créateur, mais là, finalement, on l'avait changé la signification du sabbat. Ça devenait, il faut juste éviter de pas manquer une des 1500 règles, puis de pas se faire pogner en plus, puis là, dans le danger de se faire chicaner par un pharisien, ou se faire même excommunier si on a trop été averti de foi. Et c'est intéressant, il y a un livre dans mon bureau en haut, c'est mon beau-père qui me l'a donné, il l'a utilisé à l'époque de ses études, dans les années 80, qui étudiait dans les études juives à la maîtrise à Concordia, à Montréal. Et dans ce livre, qui est écrit par Monsieur Urbach, Ephraim Urbach, c'est le livre qui s'appelle « Les sages, le monde et la sagesse des rabbins et le Talmud ». Il dit ceci, l'auteur explique que dans la mentalité juive de l'époque de Jésus, observer le sabbat était c'était de faire un œuvre pour gagner son salut. Ça faisait partie des choses que tu faisais pour espérer que Dieu te pardonne et t'accueille. Les chefs religieux enseignaient que tu échapperais au jugement du Messie quand il viendrait si tu observais bien, avec rigueur, le sabbat. Et c'est donc que c'était devenu un œuvre, que tu essayais de gagner ton ciel par la pratique du sabbat, un œuvre finalement qui menait à la déception amère, à une vie religieuse stressée et remplie de jugement. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, le sabbat prend tout son sens. Tout le sabbat est maintenant spirituel, pas physique. Il ne s'agit plus de se reposer, malgré que l'Ancien Testament, c'était pas juste physique, on comprend là. On parle du Créateur, de se rappeler, fait que c'est pas juste physique dans l'Ancien Testament, ça serait limitatif de dire ça. Il ne s'agit plus de se reposer une journée par semaine, mais se reposer en Jésus, en entrant dans le repos éternel de Dieu. Et là, on comprend mieux les paroles de Paul. Écoutez bien Paul, chapitre 5, verset 1 de Romains. Okay? Romains 5, 1. Ainsi donc, après avoir dit plusieurs choses dans les chapitres précédents, il dit, « Déclaré juste sur la base de la foi, à cause qu'on a été déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu. On a le vrai repos avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi? Déclaré juste sur la base de la foi en Jésus. Réalises-tu que si tu es venu à Jésus par la foi pour recevoir son salut, tu es déclaré juste devant Dieu. Indépendamment de ce que tu as fait dans le passé, tout est effacé par lui si tu passes par lui, que tu mets ta foi en lui. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui parle que Dieu jette nos fautes comme au fond de la mer. Vous savez, l'endroit le plus profond de la mer présentement qu'on a découvert, c'était 35 000 pieds, environ 10 kilomètres. Moi, quand je nage dans le Saint-Maurice, au-delà de 6 pieds, je vois rien. Et c'est comme ça dans la majorité de nos rivières. Et Dieu merci, j'aime pas ça voir le fond. J'aime pas ça avoir la surprise de ce qui va me sortir d'en face. Fait que j'aime mieux voir du brouillage puis rien voir. Mais il dit que nos fautes sont effacées aussi loin que ça, pour nous dire, c'est tellement creux, c'est tellement profond que c'est impossible qu'ils te reviennent quand Dieu efface tes péchés. Tu ne pourras jamais revenir à la surface. Lorsque tu viens à Jésus, tu reçois ton salut, tes péchés sont effacés, tu es en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Et tu n'as plus à traîner, tu n'as plus à traîner ta culpabilité. C'est ça le vrai repos, c'est ça le vrai sabbat, c'est ça le vrai shalom de Dieu. Et c'est très important à comprendre parce que je reçois cette question-là continuellement sur la question, faut-tu pratiquer le samedi ou le dimanche, puis faut-tu pratiquer une journée vraiment repos comme dans l'Ancien Testament encore aujourd'hui? C'est une question qui revient continuellement. Tu sais à quoi on dit, oui, c'est bon une journée de congé, c'est bon, c'est important de prendre soin de notre santé, d'avoir un équilibre. Si tu as travaillé comme un fou 2-3 jours, prends une journée off. À un moment donné, il faut prendre soin de ce corps-là, Dieu nous en donne juste un, là. Mais la question est plutôt, est-ce que je devrais prendre une journée de repos par semaine selon le commandement de Dieu, les 10 commandements? Ce à quoi je dirais non, et je dirais oui. Non. On ne doit pas observer le sabbat comme l'époque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire une journée par semaine. Oui, on devrait observer le sabbat, mais le sabbat tel qu'il est révélé dans le Nouveau Testament, un sabbat spirituel où on observe ce sabbat en venant à Jésus par la foi pour le salut et en venant à lui à tous les jours pour le quotidien en tout, puis toujours dans son sabbat. Pas juste une journée par semaine. Le salut, la vie éternelle en Jésus, c'est ça le vrai sabbat dans le Nouveau Testament. Et Paul va nous dire justement cela, comment l'avoir dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, je vous lis verset 9 aussi. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de... c'est pas par le sabbat à toutes les semaines. Oui? Non, c'est pas quelque chose que tu peux faire, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Bien, c'est vrai, quand on le lit tantôt, dans j'ai fait ça, c'est vrai, il n'y a rien de ça qui vient de moi, ça doit être comme ça aussi avec Dieu dans le Nouveau Testament. Ça vient pas de vous. C'est un don de Dieu, un cadeau qu'il a parce que tu ne pourras pas le gagner de toute façon. Un cadeau. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire pour le gagner. Et là, pourquoi? Écoutez bien ceci. Ce n'est pas par les œuvres, donc pas par de l'ouvrage que tu pourrais faire. Pourquoi? Afin que personne ne puisse se vanter. Et Dieu sait qu'on est capable de se vanter. Amen? Dites pas amen à ça. Eh oui, on est facilement vantard. Puis si on pouvait le gagner et qu'on aurait des fiers à bras en avant pour le dire à tout le monde, hein? C'est sûr, on est de même, viscéralement. Et Dieu le sait et il l'a prévu. Le repos du travail dans l'Ancien Testament devient, dans le Nouveau Testament, le repos des œuvres, de travailler à notre salut, de la religion. Car les œuvres qui ont satisfait les exigences de Dieu ont été parfaitement shalomées, hein? Accompli, complété par Jésus. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a assuré notre délivrance des péchés. Il a assuré aussi la restauration de sa création. C'est pour ça qu'il est écrit, tout est accompli, son travail était terminé. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Maintenant, nous entrons dans son repos en venant à lui par la foi, tous les jours, à tous les moments, à tous les heures, à tous les minutes. Les premiers chrétiens avaient bien compris cela car ils voyaient le sabbat réalisé en Jésus dès le début de l'Église. Les pères de l'Église, déjà les premiers chrétiens, ont laissé tomber le sabbat et au même titre que de rester le reste des règles que les Juifs avaient ajoutées et de juste vivre par la loi. Toute la gloire et la beauté du sabbat, du shalom, du repos, s'est finalement dévoilée dans l'œuvre de Jésus. C'est Don Carson qui a résumé ceci ainsi, grand théologien qui est venu souvent au Québec enseigner en français. Il dit, il fait l'observation intéressante, lorsque Dieu a créé le monde, il laissait déjà voir le sabbat un repos éternel. C'est OK, comment? Il dit, chaque fois que la création, chaque jour de la création, on voit toujours qu'il fut un matin, il y eut un soir. Mais avec le sabbat, c'est comme si le repos ne finissait pas. Parce qu'il ne mentionne pas, il y a un soir, un matin. C'est un jour béni qui est à perpétuité. C'est une observation intéressante. Le sabbat était un signe d'un repos qui allait venir. C'était un signe du plan du salut de Dieu. Le don du sabbat que Dieu nous permet de vivre nous amène à nous reposer dans le fait que Dieu il est complet, il est suffisant en lui-même pour combler nos besoins. Et ça m'amène à notre conclusion avec ce verset sur lequel j'aimerais qu'on termine en réflexion. Hébreux chapitre 4, il dit ceci au verset 9. Il reste donc, après avoir raconté sur l'Ancien Testament, un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Il en reste un. Il dit quoi? Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Et voilà, le repos. C'est quoi le repos sabbatique? Puis c'est la seule place qui est utilisée ici. C'est pas juste un repos physique. C'est un repos avec Dieu de tout, qui se repose sur le fait que tout a été fait par lui et j'ai pas à performer. Je n'ai qu'à recevoir ce que j'ai fait et je vais faire pour toi. C'est ce que Jésus dit. Maintenant, ça peut paraître contradictoire, parce que là, tout à coup, il dit, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Parce que si tu n'as pas encore ce repos, tu devrais être pressé. Et ce matin, si tu fais partie encore de ceux qui écoutent des sermons le dimanche matin, qui lisez parfois la Bible, qui vous posez des questions, mais n'avez pas encore décidé, « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. » Je reconnais que Jésus est le seul moyen, il est le chemin, la vérité et la vie. Et je te demande pardon, pardonne-moi s'il vous plaît par Jésus. Si tu n'as pas mis ta vie entre les mains de Jésus pour reconnaître et vivre la nouvelle naissance que Jésus parle, ou vivre la conversion que Jésus parle, que Paul mentionne, cette repentance qui nous amène à vivre et recevoir la délivrance de Dieu, c'est à toi qu'il te dit ça ce matin. Empresse-toi, dépêche-toi, arrête de traîner. Puis c'est pas drôle à part ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Arrête de niaiser. Tu sais pas ce que demain t'est réservé. Si tu le comprends là, arrête de le repousser. Il y a un impératif ici. Empressons-nous donc d'entrer, si tu l'as pas encore ce repos-là qu'on vient de parler depuis tantôt, que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament parle et que c'est Jésus qui l'accomplit, empresse-toi, arrête de traîner. Ce matin, 2025, le 16 mars, peut être le premier jour de ta nouvelle vie. Amen. Et empresse-toi de le saisir si tu ne l'as pas encore pris. C'est ça qu'il nous dit, l'auteur. Un impératif essentiel à ta vie, si tu fais partie dans l'auditoire de ceux qui n'ont pas encore pris cette décision. C'est Augustin qui disait, « Nos cœurs sont sans repos jusqu'à temps qu'ils se reposent en lui. » Et tant que tu ne feras pas ce move-là dans ta vie, tu vas rester dans cet état-là, à toujours courir après du repos, mais jamais satisfait d'un réel repos. Jamais pouvant l'enlever. Pour nous, chrétiens, on devrait constater, constamment revenir sur notre décision de faire confiance à Dieu parce que nous ferons face à des tentations d'être indépendants de Dieu continuellement chaque jour, de m'arranger un petit bout sans lui et de ne pas dépendre de lui au quotidien. Alors que quand je me confie en lui, je me repose en lui. Le repos vient par prendre ma situation puis de lui confier. Et là, je retrouve le repos que j'avais perdu par l'oppression que nous m'amenait l'épreuve, la détresse, le physique, le moral et tout ce que tu voudras. C'est Elisabeth Elliott, je l'ai mis ici, cette dame qui a perdu son mari à la mission et qui est allée évangéliser 10 ans plus tard avec son fils, cette même tribu qui avait tué son mari pour leur apporter l'Évangile et conduire au Seigneur les meurtriers de son mari. Et elle dira ceci, « Seigneur, donne-moi un cœur tranquille qui ne demande pas à comprendre, mais qui avance avec confiance dans l'obscurité guidée par ta main. Ton repos, c'est assez pour moi. J'ai pas besoin et tu me dois pas des explications. » Voilà un cœur humble qui a trouvé le repos de Jésus. Paul dira ceci, et on l'a lu dans notre dernier sermon, un des derniers sermons, chapitre 4 de 2 Corinthiens, verset 16. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur, notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, redécouvre par la foi continuellement le repos, le shalom de Dieu qui me garde. Notre force vient de ce repos de Dieu. C'est qu'en Jésus que nous avons cette assurance, cette tranquillité dans les faits de quoi que ce soit qui soit arrivé autour de nous. Seigneur, conduis mon autobus. Conduis ma classe où est-ce que je travaille. Conduis mon patron au travail. Conduis ma vie comme missionnaire. Conduis ma vie comme pasteur. Conduis ma vie comme mère au foyer. Et donne-moi de te reposer dans chacune de mes tâches en toi. » Oswald Chambers a dit ceci. La paix n'est pas l'absence de problèmes, ce qu'on aimerait beaucoup comme formule, personnellement, en tout cas, là. Ça serait plus facile, mais ça, la paix, pas de problème. Mais c'est pas ça, la paix de Dieu. La présence de Dieu, c'est notre paix. En Jésus, nous vivons dans le septième jour, continuellement. On vit cette disposition de repos et de confiance. Tout est accompli. On peut se détendre. J'ai invité l'équipe de louange à s'approcher pour terminer dans un chant. Et donc, l'idée ce matin, et ceci, écoutez bien, voici l'idée de ce matin. Entre dans le repos de Dieu. Le reste de ta vie, en te reposant en lui, parce que Jésus est le prince de la paix. C'est le prince de la paix, le Messie. Et j'aimerais vous inviter à vous lever debout. Je vais terminer la prière et j'aimerais prononcer cette belle bénédiction qui se trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 16. Je vous invite à fermer vos yeux et juste recevoir cette bénédiction biblique que Paul a donnée un jour à cette église de 2 Thessaloniciens et qui va comme ceci. Que le Seigneur de la paix te donne lui-même la paix en tout temps et en toute manière. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Père Céleste, on est tous des gens qui en semaine perdons notre repos. Moi le premier, Seigneur. Les tâches à faire, les inquiétudes avec les enfants, des conflits à régler, des nuits où on se réveille puis on aurait le goût de juste se recoucher. Ça nous arrive tout le temps, Seigneur. Et des situations que j'essaie de régler moi-même. Oh, et que je fais ça souvent, Seigneur. Je te demande pardon. De toujours vouloir essayer de devenir autonome, comme le petit gars de 5 ans qui veut attacher ses souliers tout seul, sans maman, papa. Mais toi, Seigneur, t'aimes ça que je te le demande. T'aimes ça te pencher avec moi pour attacher mes souliers, puis me le montrer encore, puis dire, j'aimerais ça toujours le faire avec toi. Ça me tannera jamais que tu me le demandes de t'aider à attacher tes souliers. Mais nous, on a ce petit gars, Seigneur, cette petite fille qui veut le faire tout seul, puis regarde, je l'attache tout seul. Je suis bon, hein? Je suis belle, hein? Seigneur, c'est ça, nous, naturellement. Et quand on fait ça, on échappe le repos. On te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, de vouloir mener ma vie en m'arrangeant moi-même dans mes problèmes. Je reconnais que c'est une erreur de ma part. Et alors que je professe ton nom, Seigneur, je sais que c'est pas ça que tu veux pour moi. Seigneur, je veux plus de toi chaque jour et je veux vivre le sabbat tous les jours de la semaine. Aide-moi à me confier continuellement en toi, de rester toujours émerveillé de ce que tu as fait pour me délivrer à travers Jésus. Que tu es le Créateur et que le Créateur a décidé de venir vers nous. C'est extraordinaire. C'est le Créateur qui a trouvé un moyen de nous sauver. Pas moi, pas nous. On t'a pas fait une proposition, Seigneur. Tout vient de toi et on te dit merci ce matin. Loué soit ton nom. Et pour celui, pour celle qui n'a pas encore pris cette décision, Seigneur, je lui dis dans ton nom, Seigneur, dépêche-toi. C'est assez. Arrête de reporter à demain, de mettre le genou à terre. Ô Seigneur, que celui-ci ou celle qui reporte aujourd'hui puisse décider non, aujourd'hui c'est assez de reporter. Je te donne ma vie dès aujourd'hui, le 16 mars 2025. Prends ma vie ce matin, Seigneur. Deviens le roi. Je veux arrêter de régner. Je suis pas heureux. Je suis pas en paix dans mon règne. Je veux ton règne, Seigneur, parce que toi, tu sais de quoi tu parles et tu as tout réglé pour moi. Je le reconnais et dans le nom de Jésus, je veux croire en toi et te demander pardon. Pas demain. Là. Et si c'est ta prière ce matin, je t'invite à venir voir un des pasteurs, à aller chercher quelqu'un autour de toi pour venir prier, être accompagné, comme un petit enfant dans cette décision. Et Seigneur, nous te prions pour tous ces besoins ce matin. Accorde-nous ton repos, s'il vous plaît, Seigneur. Le vrai repos, le vrai sabbat, la vraie paix de Jésus. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.